Bonjour. Eh bien, nous commençons ces rencontres littéraires qui vont être nombreuses cette année, comme vous avez dû le voir. Et Serge est encore là. Je voudrais le remercier avec Antoine d'avoir fait une part très belle à la littérature dans ce festival qui fête ses 30 ans, avec donc le Pérou comme invité, et avec donc trois écrivains qui seront avec nous à partir d'aujourd'hui. Il y a aussi un petit détail qui est un gros détail, c'est les expositions de Daniel Mordzinski qui donnent une dimension littéraire supplémentaire à cet événement avec ces photos absolument magnifiques que vous avez peut-être vues déjà, mais que je vous engage à voir si vous ne l'avez pas encore fait. On aura l'occasion de reparler de Daniel Mordzinski avec chacun des auteurs qu'il a photographiés. Et aujourd'hui, nous avons Karina Pacheco, que nous avons d'ailleurs grâce à Daniel, qui nous a recommandé sa venue, sa présentation. Et Karina Pacheco, c'est donc une écrivaine, c'est aussi une anthropologue, c'est aussi une éditrice, et c'est aussi une alpiniste. Donc elle nous parlera de tout ça. Vous le savez, moi je préfère laisser parler les auteurs que vous parlez de choses qu'ils savent mieux que moi, notamment de leur vie, de leur œuvre, bah, je les aide un peu, mais en ce qui concerne leur vie, alors Karina Pacheco a souhaité parler en français, qui n'est pas sa langue maternelle, mais qu'elle a appris, comme beaucoup d'autres choses, et elle se débrouille très bien, donc évidemment elle n'a pas une fluidité comme si elle avait vécu très très longtemps à Paris, ce qui lui est arrivé, mais pas très longtemps. Et puis alors il y a une chose très importante avec Karina Pacheco, c'est qu'elle est de Cusco. Et ça aussi, il faudra qu'elle nous parle de cela, parce que le Pérou ce n'est pas que Lima, la littérature péruvienne ce n'est pas que des auteurs de Lima, il y a Cusco qui est évidemment... D'ailleurs Cusco je crois que ça veut dire... Le nombril du monde, non? Voilà. Alors, Karina, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ta vie, de ton début, qui est donc l'anthropologie?
Oui. Et
ça marche?
Je voudrais remercier le festival pour l'invitation, pour venir ici, et je vous remercie votre présence ici. Et c'est une chance très belle pour partager ce que moi je fais comme éditrice, comme auteur, comme anthropologue et même comme alpiniste. Et je vous... excusez-moi si je n'ai pas parlé très vite parce que je n'ai pas de chance pour essayer mon français en public depuis 3 années. Mais j'espère que vous pouvez me comprendre. Et alors, merci pour votre présence ici. Merci au Festival de Biarritz. C'est cette année très spéciale parce que c'est la 30e année de cet important festival que j'ai connu entre mes amis, principalement mes amis qui font des films. J'ai beaucoup de je suis un amoureuse, passionnée des films du monde. Et je connais bien que Biarritz a offert au public des films une chose que Jacques n'a dit, et ce que j'aime aussi les films comme l'alpinisme. Oui, et merci même.
Alors, comment de l'anthropologie on devient écrivaine? Est-ce que quand tu as commencé à te lancer dans cette carrière, parce que c'est une véritable carrière, hein, tu as officié, maintenant tu es beaucoup moins prise par cela, tu écris aujourd'hui. En plus, ce sont deux écritures différentes, parce que tu écrivais, tu faisais des communications, des livres. Comment passe-t-on donc de l'anthropologie avec effectivement en plus un précédent célèbre qui est José María Arguedas?
Bien, je crois que quand J'ai toujours lu beaucoup de la littérature dès que j'étais très petite dans ma maison. Même mon père et ma mère lisaient beaucoup et je crois que c'était très important. Et j'ai toujours les livres pour lire chez moi. Et rien m'avait dit, c'est pas interdit pour les petites. J'ai lu beaucoup et quelques jours, je me dis, oh, je voudrais écrire. Mais après ça, j'ai eu la chance de connaître l'anthropologie et je me dis aussi que ce métier, je veux être anthropologue parce que j'aime la diversité culturelle au Pérou est très, très, très importante parce qu'on a beaucoup de diversité de cultures, mais aussi, il y a beaucoup de conflits dans les pays, particulièrement pour ces très différentes cultures qui nous habitent, même dans une même personne. Alors, toutes les choses avec le racisme, la discrimination, mais aussi comment est-ce qu'on peut, la question que Arguedas a travaillé beaucoup, est comment on peut construire des ponts entre les gens qui nous sommes. Et j'aimais beaucoup l'anthropologie, les études de l'anthropologie. J'ai fait mon doctorat en anthropologie, mais toujours je lis beaucoup, beaucoup de la littérature. Et j'ai toujours dit que je ne pourrais être l'écrivain que je suis si je ne serais anthropologue. Je crois que l'anthropologie m'a donné beaucoup. Je n'ai jamais pris des cours de littérature, mais je crois que la lecture, ça fait notre meilleure école toujours. Et quand j'habitais pendant 12 ans à Madrid, et quand je suis retournée à vivre à Cusco et en 2004, et il y avait beaucoup de conflits dans moi-même. Et je ne trouvais pas difficile de transcrire ces sentiments dans le langage de l'anthropologie. Alors j'ai choisi j'avais beaucoup de questions dans moi, avec des questions avec le Pérou que j'ai trouvé, parce qu'après 12 ans de vie en Europe, il y avait des choses, des questions, le contraste, le normaliser racisme, le normaliser inégalité qui a au Pérou, ça fait un choc. Et alors j'ai écrit un premier roman, que c'est le nom est étrange, c'est difficile de le traduire en français parce que prendre le nom d'un arbre qu'il n'existe pas en Europe, mais j'ai trouvé en Séville, même en Grèce, El Moye est un arbre que c'est très typique de la région andine. Et c'est la volonté del Moye. Et c'est un roman qui parle de le conflit au Pérou dans les familles, pour le racisme, même à l'intérieur d'une famille de Cusco. Et parle aussi de l'époque de la violence politique. Alors, c'était le premier roman et là, je travaillais comme anthropologue dans l'université, dans le centre Bartolomé de las Casas, que j'ai connu à ce temps-là. Et c'était une très belle expérience. Alors, je travaillais, et après ça, j'ai écrit un autre nouvelle, N'oubliez pas notre nom. Et je travaillais beaucoup des années comme anthropologue, mais à la fin, je suis maintenant très, très. Je peux mon âme maintenant dans l'écriture, mais aussi ma relation comme anthropologue et comme l'éditorial.
Et alors, dans ton écriture, il y a. Tu passes du roman. Tu as des romans et des contes. On va utiliser le terme conte, hein, c'est. N'en déplaise aux universitaires et critiques. Tu as si je me souviens bien, 5 romans
7.
7 romans, pardon. 7 romans et 3 livres de contes, plus une anthologie de tes contes, dont une anthologie qui. Il y a une anthologie traduite, enfin, il y a un conte dans une anthologie traduite en français qui s'appelle Nouvelles du Pérou chez Magellan. Le roman, c'est un long trajet. Le conte, c'est un voyage beaucoup plus bref, concis, à mon avis plus difficile. Comment tu choisis ? Parce que les histoires sont souvent ressemblantes, sinon les mêmes. Comment tu décides que tu vas écrire un conte ou que l'histoire, plutôt que le sujet, va devenir un roman.
Je partage avec vous l'impression qu'écrire des contes est plus, c'est pas si plus difficile, mais c'est un défi très grand parce que dans des moins de paroles, on doit écrire avec beaucoup de corps, beaucoup de précision, parce que c'est comme pour moi, les contes sont comme des poèmes, alors dans autre style, mais on doit travailler beaucoup avec le langage. C'est ma vision de comment j'aime des contes qui sont comme un coup, mais aussi un coup de parole. La parole. Alors je. Quand j'écris des romans, je sais que je peux écrire beaucoup, que l'histoire, c'est un autre type de défi, parce qu'on doit faire une histoire avec beaucoup d'éléments, avec beaucoup de scénarios. On doit travailler beaucoup aussi des paroles, ce sont le langage est important. Mais j'admire beaucoup les gens qui font des contes, parce que. Tu dois, c'est comme un quelque, tu dois comme un archer.
Un archer.
Alors, et on m'a demandé de participer dans une anthologie des femmes écrivaines au Pérou, et ils voulaient collecter des petites histoires, et j'avais seulement un que j'ai écrit, j'avais fini. Et je lui ai donné ça parce que j'étais intéressée de participer dans cette anthologie de l'année 2008. Et les critiques, les renseignements sont venus. Et je n'étais pas sûre qu'ils vous iront à dire. Et il y avait de très bons. Critique de mon petit pièce, alors je me dis waouh, c'est une invitation pour écrire plus de contes, et les contes offrent pour un auteur la chance d'explorer dans différentes histoires, dans différents langages, et comme moi je suis anthropologue, dans mes romans sont beaucoup réalistes, beaucoup ancrés dans le réalisme, mais les contes me donnaient des chances pour explorer dans les langages et les styles fantastiques, de prendre des mythes, mais aussi explorer dans des terrains de l'érotisme, le sexuel, le sensuel, la mort. Et alors, c'est ça comme après avoir publié ma troisième roman, j'ai publié ma premier livre de contes.
ce livre qui s'appelle Lluvia, donc l'eau,
Lluvia, pluie.
Et, la pluie, mais c'est l'eau donc, et, est un livre qui me paraît très réussi. Alors malheureusement, il n'est pas traduit. Il y a un conte qui est traduit par une excellente traductrice qui est Marianne Millon, et qui est justement dans cette anthologie dont je parlais, Nouvelles du Pérou. Uh-huh. Voilà. Comment tu décides de raconter une histoire de la façon la plus, j'allais dire, comme une anthropologue, ou tu racontes une histoire comme une anthropologue et une presque quelquefois poète, en ajoutant tu arrives à faire ce que faisait ce qu'arrivent à faire les bons écrivains comme Rulfo, c'est-à-dire que tu fais parler les gens comme si effectivement avec un parler qui leur appartient mais qui n'est pas celui qu'ils utilisent, un peu comme Giono aussi. Ça c'est l'expérience d'anthropologue ou c'est l'écrivain qui comment ça se passe, tu mélanges les deux choses, est-ce que tu peux pas nous parler d'une histoire de parmi les neuf qui nous tu racontes l'histoire et tu nous dis un peu comment ça s'est passé?
Oui, je peux parler de Les Rois de la Forêt, qui c'est dans ces anthologies traduites en français, et parce que c'est l'expérience d'un anthropologue qui se revient. Il retourne dans un lieu à l'Amazonie où il travaillait, et il se va revenir d'un conflit où beaucoup de gens sont morts, et il travaillait comme beaucoup de mes collègues. Quelquefois, il ne trouve pas de travail, et à la fin, il travaille avec quelquefois des compagnies qui détruisent la forêt. Et c'est la perte de l'innocence, parce que quand ils sont jeunes, elle et ses copains, ils ont beaucoup d'idéaux de comment faire le travail, mais ils viennent de tombe, ils ne trouvent pas de travail, et à la fin, elle décide d'aller travailler dans un lieu au nord de l'Amazonie, et quelque chose très horrible à la fin va se passer là, et il va être à la fin d'une certaine façon complice de ce qui passe. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est le conflit personnel et les choses qu'il trouve quand il revient beaucoup d'années après. Alors, ce n'est pas ma expérience, mais bien sûr, elle prend des idées, des choses que j'ai vues avec beaucoup de mes collègues, la fin de l'innocence, que c'est très, très horrible. Ce n'est pas seulement quand on est petit et on revient adulte, mais beaucoup de fois, se passe quand on est adulte et on a beaucoup de belles idées, et la réalité nous oblige et on nous défie. Pas nécessairement nous oblige, mais nous défie à dire oui ou non. Et quelquefois, dire non à un très grand homme, à un très grand de l'argent tous les mois, ce sont des décisions qui sont très difficiles. Alors, à la fin, quelquefois, comme dans ce cas, il y a des conséquences qui sont brutal.
Très bien. Et on a l'impression, lorsqu'on te lit, que tu as souvent d'ailleurs ce problème du choix, de la décision, décision définitive, fatale dans la vie. C'est quelque chose qui, ou que tu exprimes, ou que tu laisses deviner, ou. On a l'impression que c'est quelque chose de très important pour toi. Il y a un moment dans la vie où il faut prendre une décision, il faut faire le pas. On l'a vu, on le voit.
Oui, moi, je crois qu'on fait des décisions tous les temps, tous les jours. Et beaucoup de fois, on n'est pas même consciente de que les petites décisions qu'on fait pour nous tourner dans la vie ou dans la mort. Et c'est ce qu'on appelle l'hasard. Mais il y a d'autres fois quand on est conscient de ce qu'on va dire oui ou non, je vais prendre ce chemin ou l'autre. Et quelquefois, c'est comme on dit l'appel des sirènes, parce que beaucoup de fois, on a des fleurs, les chemins fleurissent, et tout ça, très belle, et pour ton ego, notre ego, nous fait continuellement des trucs, et c'est très facile de prendre ces choses. Il y a des fois que le chemin fleuri est absolument fleuri, parce que c'est bon pour nous, mais c'est bon pour le monde, et c'est très belle quand on a des choix de prendre des belles chemins qui sont tout bons. Mais quand on connaît qu'il y a des choses qui même pour a des risques pour notre âme, notre sueños, j'ai oublié comment dire, notre songe, et au même bon pour risque d'autres gens qui nous apprennent, qui nous aiment, et c'est difficile. Et je crois que beaucoup de mes romans, même des contes, ont pris ça, la décision, oui, non, ou pourquoi non dire oui et non, quelquefois. Alors, c'est une chose qui est présente dans beaucoup de mes histoires.
On a souvent l'image du Pérou avec des, notamment, enfin, tout à fait personnellement, de la littérature péruvienne plutôt triste, avec des fins Vallejo, Ribeiro, Marguedas. Et toi, tu es tout le temps en train de plutôt sourire, tu racontes les choses avec... Enfin, je crois qu'aussi la réputation des Péruviens, c'est quand même pas des joyeux de riz. Et pourtant, je crois que là aussi, dans tes livres, on le voit, il y a une... Vous aimez rire, vous aimez l'humour, vous aimez... Mais peut-être plus dans la partie indigène que la partie métisse ou créole. Je me trompe ?
Oui, Cusco est un lieu très particulier au Pérou, parce que l'histoire de Sancaofco, bien sûr, est présente. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez voir la présence très importante matérielle de ce passé. Alors, c'est différent dans des autres villes du Pérou, quand des gens peuvent dire c'est le passé, était dans notre histoire est très présente, et aussi on est très proche des communautés indigènes. Les Quechua est très présente, mes parents, même ma mère et ma père, ils parlaient Quechua. Ma père, il parlait très bien, ma mère comme ça, mais alors le Quechua est très présente aujourd'hui. Alors la vision que ça donne dans nous de ce qu'est le Pérou est très différente si tu habites dans une ville de l'Amazonie ou si tu habites à Lima. Est très différent. Il y a beaucoup de Pérou, beaucoup, beaucoup de Pérou. Et la géographie est très grande, la diversité culturelle très grande, et même le métissage de nous dans le endroit urbain est très différent si tu habites. Alors, la littérature a les chances de synthétiser quelquefois dans les romans ces conflits, mais aussi la beauté du métissage. Et je crois qu'au Pérou, notre grand problème est que on ne voit, on ne connaît comment absorber la beauté même dans notre conflit. Et le chaos, on n'accepte pas le chaos de la diversité. On veut limiter le chaos, put ordre dans le chaos de la diversité et pas effacer le chaos et dire oui, cette explosive diversité a le chaos. Et je dois remercier mon collègue Juan Pablo Copa, un anthropologue. Il m'a dit ces paroles trois ou quatre jours avant. Il m'a dit, j'espère, parce que maintenant on a beaucoup de conflits au Pérou, et il m'a dit, j'espère, Karinita, en quechua est très, très, oui, dit, de le, oui, on utilise beaucoup les diminutifs. Il m'a dit, j'espère, Karinita, qu'on peut trouver le goût ordre et le goût désordre, et qu'on peut habiter avec le goût, le bon désordre. Pardon, j'utilise une parole en anglais, le bon désordre. J'espère qu'on peut trouver la chance d'habiter avec le bon désordre, le bon ordre. Et je dis, c'est ça que, qu'on doit pris dans nous-mêmes et pour les pays. Oui.
Le dernier roman qui sort ou qui vient de sortir à peine, septembre, j'ai vu que le copyright oui. C'était septembre 21, qui est d'ailleurs dédié entre autres à Daniel Mandzinski. Puisqu'on a parlé des contes, il faudrait qu'on parle aussi de ce roman-là qui sera disponible. Qu'il est déjà, mais qui sera disponible en Europe prochainement. C'est un livre un peu particulier qui s'approche un peu du méta-policier, disons. Il y a quelque chose du, sinon, policier noir. Tu peux nous en parler ?
Oui, et le nom est l'année du Bond et l'agneau del viento. Il apparaît 12 semaines avant. Et peut-être c'est le roman le plus personnel parce que ça prendra beaucoup de ma mémoire d'enfant. Et en 1980, au Pérou, l'apparition des sentiers lumineux, Sendero Luminoso, pour l'histoire du Pérou, un choc, un cataclysme. Mais maintenant, tout le monde parle de terrorisme, de la violence politique. Mais dans les premières années, rien, personne ne comprenait ce qui se passait. Et la droite disait, c'est guerrieros qui sont entrônés en Cuba, à Cuba. Ou même, le président disait, ce sont les abigeos. On ne connaît pas comment les paroles... Les abigeos, c'était des gens qui sont les ladrones, les voleurs de Bethel dans les champs. Alors le président de la République dit que ce sont les voleurs de Bethel qui sont attaquants entre eux. Et aux guerrilleros qui sont entrônés à Cuba. La gauche dit que c'est la CIA. La CIA est infiltrer ces guerriers pour nous faire du mal, pour dire que nous sommes alors, et même dans les premières années à Lima des explosions, de beaucoup de choses qui passaient même à Cusco Ayacucho n'existait pas dans le news, la télévision. Alors, le sentier lumineux la ça grandit, a rien comprenait qu'est-ce qui se passait. Et quand la militarisation de la région a venu en 1983, c'était brutal. Et cet homme-là, 75% des mortes et des disparus sont des gens qui parlaient quechua. Et la répression a été brutale et le terrorisme pour faire même terroriser toute la population a été brutal. Mais le roman a pris la mémoire d'un petit qui va voir comment ça commence. Et dans l'année dernière, comme moi, va prendre quelques mois pour habiter à Madrid. Et là, elle va rencontrer une femme qui l'avait fait appeler un cousin qui a été disparu. Mais la famille, toute la famille a dit, il est au Brésil. Et tout en Bolu croyait les belles histoires. Il disparut parce qu'il est à Brésil, peut-être qu'il est marié, pourquoi il va vouloir retourner au Pérou. Alors, c'est le moment pour dire, je dois savoir qu'est-ce qui se passait avec elle, parce que le temps où elle est disparue, c'est le temps où tout est teñido de sangre. ¿Cómo diría teñido de sangre? Con la violencia explotó. Alors, c'est le temps de s'effacer avec l'aurore. Et alors, le roman, c'est un voyage dans le passé et même un voyage physique dans les endroits de sa belle mémoire. Sa belle mémoire d'enfance va être absolument destrossée quand elle efface ce qui se passait avec cette femme et avec le pays et moi-même. Mais le roman m'a donné aussi la chance d'utiliser des langages même fantastiques, non pour l'histoire, mais pour les voix qui apparaissent. C'est la voix de la narrateur, qui c'est très réaliste, mais apparaissent les voix des mortes. Quand on touche, quand on s'approche dans une histoire comme c'est la violence politique, je crois que même si c'est la fiction, on doit se rapprocher avec beaucoup de délicatesse, même pour raconter de l'horreur. Et c'est une petite synthèse de ce qui se dans ce roman. Oui.
J'ai dit au début que tu nous parlerais de Cusco. Pourquoi tu es revenue à Cusco? Tu habites Cusco et tu es éditrice à Cusco.
Oui. Pérou est un pays qui s'était très absolument centraliste. Hier, on parlait de que quand on fait les constructions des nations républicaines à l'Amérique latine, on a appris beaucoup le modèle qui vient de la France. Et le modèle d'organisation politique, ça a été appris de la France. Même au Pérou, possiblement, on a cette division des départements, comme c'était en France. Alors, c'était le pouvoir politique, économique, est très centralisé au Pérou. Même la représentation culturelle du Pérou est faite beaucoup à Lima. Et presque tout est centralisé, c'est ce qui se passe à Lima. Et moi, que je viens d'une famille très, très, très fière d'être de Cusco, m'ont dit, mais c'est pas possible. c'est drôle. Cusco, c'est le centre de l'univers pour mes parents. Alors, j'aime sa vision pour que on a besoin de prendre ses fiertés pour dire nous avons des autres histoires, nous avons des autres visions des pays, parce que une autre chose très intéressante de Cusco est que Cusco, normalement, comme vous, pour le focus au Cusco, c'est la montagne, les paysans andins, même la ville, le parc colonial qui est très beau, très très beau aussi, la Paranca, mais même au Cusco, on oublie qu'on a l'Amazonie, et l'Amazonie est un autre univers. Je veux dire que l'Amazonie est un autre monde, un autre univers, et même dans la région de Cusco, la moitié de la région est amazonique. Et il y a beaucoup de choses de l'Amazonie. Alors, comme anthropologue, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans l'Amazonie. Et l'Amazonie, je me sens part de l'Amazonie. Et quand j'étais petit, j'avais de la famille qui habitait ici à Bamba, que c'est la grande ville de l'Amazonie à Cusco. Alors, comme anthropologue, je travaillais avec. Alors, quand j'ai créé l'éditorial, on a pris une parole qui vient des Incas. Les Incas organisaient, les Incas, ils tellement croyaient que Cusco, c'était le point central de l'univers. Et ils organisaient le monde connu de Coricancha, que c'est le temple du soleil, et c'était le point zéro du monde et de temple. Il était une organisation très sophistiquée, et elle organisait 41 lignes qui partaient de cet point pour tout l'univers. Et chaque point, chaque ligne est le séqué, c'est une ligne. Mais ligne rituelle, ligne administrative, ligne politique, mais ligne de temple. Alors, quand on a créé l'éditorial, c'est qu'on a été très, 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 même présomptueuse, et on voulait publier dans différentes lignes l'anthropologie, l'histoire, la littérature, même l'anthropologie des livres de l'Amazonie, l'écologie. On voulait publier presque tout, mais on était très on était dans les nuages, parce que publier, vous le connaissez, c'est très difficile. Mais les noms nous aident, parce que nous faire croire qu'on peut publier beaucoup de choses. Et on voulait publier comme Cusco. Dans cette map centraliste, on voulait publier nouvelles voix, mais des classiques. On voulait publier gens qui habitent dans tout le monde et qu'on avait pris attention de l'histoire de Cusco. Mais le premier livre, je dois lire, on disait, et qu'est-ce qui se passe si notre travail s'il ne marche pas, s'il ne fonctionne pas, si c'est un échec absolu. Alors, j'étais en train de publier ma seconde livre de nouvelles, et on a dit, OK, ça va être le conejillo de India, c'est Le test, ça va être le test. Si ça marche pas, ça va être l'échec pour moi et pour rien. Et si ça marche bien, ça marchait très bien. Alors, on a commencé l'éditorial con
le cobaye.
Mon deuxième livre de nouvelles. Et après ça, on ne pouvait pas croire que très grand auteur nous appelait pour dire j'ai ce livre. Et on disait, oh, c'est impossible. Et on voulait l'appeler et il nous appelait. On a commencé con un livre d'histoire de Vilcabamba, un petit chronique qui Brian Bauer, il est un très très important archéologue et historien américain qui a travaillé beaucoup à Cusco. Il nous a donné son livre, on est très très contente. Et après, con Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, qui dans les années 1997, ils ont publié la biographie d'un cargador, je ne sais pas comment dire, parce que c'est une parole très précise. C'est des gens indigènes qui travaillent chargeant.
Du portefeuille.
Oui. Et ils ont publié la biographie en quechua, en espagnol, et on une nouvelle édition de ce livre qui est un classique et précieux, mais quand on a fait l'édition, la biographie de Gregorio Condori Mamani a originalement seulement le titre seulement pour son nom, mais la biographie prend aussi la biographie de sa femme Augusta Quispe. Et c'est un petit morceau de le livre, mais c'est très, très impressionnant, très important. Alors, on a dit, la nouvelle édition, Gregorio Condori Mamani, Augusta Waman, Assunta Waman, son nom est aussi dans le titre de notre édition, et tout est entièrement en quechua et en espagnol, parce que... la première édition, le préface, le prologue était en espagnol et seulement le testimon était en quechua et en espagnol. Alors, on a traduit au quechua le préface de Tom Suiderma et le prologue de Ricardo et Carmen. Ricardo est mort l'année dernière avec Covid, quand elle était l'alcalde de Cusco. Et c'est comme ça. Et beaucoup des auteurs très, très connus nous ont donné la chance de les publier. Même Nathan Bachtel, on a fait une nouvelle édition de La vision de vaincu, que on ne pouvait pas trouver cet merveilleux livre. Et on a fait une nouvelle édition et il était très content avec l'édition qu'il nous a fait. Il nous a offert les chances de publier un de ses derniers livres, que c'est Paradis du Nouveau Monde. Et même moi, j'ai les chances pour les traduire et pour les publier. Et c'est le dernier. Et maintenant, on prépare une anthologie de textes de la feuille de coca, les premiers récits des chroniqueurs du 60e siècle, à des textes plus académiques et pour le 20e siècle. Oui.
Bien. On ne voit pas le temps passer, on est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien. Tu vas commencer, j'ai imaginé que ce serait peut-être une bonne idée de vous demander ce que vous avez tous été pris en photo, vous avez tous vu votre portrait par Daniel, et je me dis que ces photos sont tellement expressives, ça vaudrait le coup de vous demander ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti au moment où Daniel vous met en scène, on peut dire.
Mon cher ami Fernando Iwasaki, qui il est un écrivain qui habite à Séville en Espagne, J'étais invitée pour un Hey Festival. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un festival qui vient d'une organisation britannique, les Hey On Way. Et maintenant, de 2015, à Arequipa, il organise un Hey Festival tous les années. Et pour l'année 2016, j'étais invitée. Et Fernando Iwasaki, il était invité aussi. Et Daniel Morsinski, c'est le photographe officiel de ce festival, particulièrement pour les festivals qui sont en Amérique latine. Alors, Fernando m'a dit qu'il allait faire. Le pays voulait faire. Ils sont en charge de faire un photoreportage de la route baroque, que c'est Cusco à la route baroque, et c'est très belle. C'est une route qui part de Cusco et passe pour les villages qui ont des merveilleux temples de temple de baroque. Et ces temples-là sont relationnés avec la route de l'argent. On l'appelle, c'est la route de l'argent. C'était le chemin de l'argent de Cusco à presque La Plata. À l'Argentine. Et alors, Cusco a des très, très, très belles temples avec Andahuaylillas, Huaro, Oropesa, et il continue. Alors, c'est comment j'ai connu Daniel, et je les ai guidés. On a fait les chemins à Arequipa, on a dit non pour l'avion. C'est une bonne décision de dire toujours non à l'avion si on a des chances pour prendre le train ou pour prendre des autres. Et on a fait le chemin en voiture et prendre des photos. Alors, et c'est comment donc, la photo, il l'a pris dans le centre de restauration des pièces coloniales à Tipon. C'est un fantastique la place. C'était le comme l'hacienda d'un marqués, del marqués de Oropesa, que c'était très très important del marqués Vallombroso dans le XVIIe siècle. Et maintenant, il appartient à l'État et c'est le lieu où beaucoup de pièces de tout le Pérou, pièces coloniales, sont restaurées. Et les places, l'endroit est très bel. La photo qui est là, Daniel me l'a pris là, dans cet endroit qui est dans les montagnes et dans le centre de restauration. Mais c'est un bel édifice.
Merci Karina. Merci Karina. Et il nous reste un peu de temps et on va avoir 10 minutes pour des questions. Des questions, hein, s'il vous plaît. Attendez. On vous entend ? Non ? Je vous prête mon micro parce que je crois qu'il n'est pas. Ah, non, c'est bon.
Merci. Oui. Je voulais vous demander comment vous assurez la diffusion de vos livres au Pérou. Est-ce qu'il y a plusieurs librairies dans la ville? Est-ce qu'il y a des centres, un peu comme des centres de documentation, où la population peut venir lire vos livres? Comment ça se déroule?
Oui. L'édition au Pérou, l'édition indépendante, c'est un métier de beaucoup d'amour. Parce que c'est très difficile de faire la distribution des livres. Alors, au début, moi et mes amis faisaient tout seul. On fait la diffusion moi-même. Mais maintenant, on travaille à Lima avec un autre maisons d'édition indépendantes. Ils sont très grands. Ils sont Station La Cultura. On donne les livres à lui. Il fait la diffusion dans des librairies à Lima. Mais à Cusco, moi-même, je fais la diffusion dans 3 librairies. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Et tous les temps, on donne l'autre chose. Par loi, on donne des livres à la Bibliothèque nationale. Mais à Cusco, la Bibliothèque nationale, ce n'est pas suffisant. On donne des livres, mais on a seulement 2 bibliothèques, la bibliothèque municipale et la bibliothèque du centre Bartolomé de las Casas, qui est très importante, très très importante. Oui. Et si on paye de 15 soles par année, ça, c'est 3 euros, on peut acheter les carnets pour accéder. Mais maintenant, c'est catastrophique, parce que pour la pandémie, tous les bibliothèques sont fermées. Alors, ce qu'on essaie de faire est ne pas. Alors, c'est la seule forme et la foire des livres. La foire des livres sont des chances très importantes pour rapprocher notre livre à les gens-là. Mais maintenant, on n'a pas foire aussi parce que pour la pandémie qui a été très, très, très dure. Tout est virtuel, mais un foire n'a pas pu être virtuel. Maintenant, j'espère que l'an prochain, on pourra reprendre l'ouverture des bibliothèques, même l'ouverture des foires de livres.
Merci.
Merci beaucoup. Moi, je voulais juste savoir dans combien de pays vous avez vécu, combien de langues vous parlez, si vous parlez le quechua, comment les endroits où vous avez vécu ont pu influencer vos romans. Et puis, une autre question aussi, est-ce que le français est enseigné dans les écoles au Pérou, ou est-ce que c'est l'anglais qui est langue 1, j'imagine, mais est-ce que quand même le français est enseigné?
Le demande si le pays est dans lequel vous vivez, si il y a une influence.
Et si vous pouvez nous répondre en espagnol.
Comment?
Parce que j'aimerais entendre un peu l'espagnol
non,
aussi.
Elle va vous répondre en français. Mais...
Non, en espagnol, j'aimerais qu'elle nous réponde.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interprète. Hein.
Ah, d'accord.
Oui. Est-ce que nous
écoutons bien? Elle va répondre, et après elle vous parlera en quechua, si vous voulez.
Primera pregunta, lo de dónde viviste todo, y si se enseña todavía el francés en Perú.
Sí, sí, sí. Moi, j'ai étudié à Cusco, l'école, même l'anthropologie, à Cusco, je l'ai étudié à Cusco, J'habitais pendant un an aux États-Unis avec un programme d'échange d'étudiants. Mais quand je suis retournée à Pérou, j'ai commencé à étudier l'anthropologie à l'Université San Antonio Abad de Cusco. Et après ça, part de ma formation, avec des séminaires, beaucoup de séminaires dans cet homme-là, et j'ai pris beaucoup de cours aussi dans le centre Bartolomé de las Casas, qui avait le collège andin, et la mère de Javier Ricard, qui était le directeur pendant beaucoup de années-là, est présent maintenant, et je suis content pour ça. Merci. Et je dois dire que le centre Bartolomé de las Casas a été créé par des gens qui sont venus de la France. Et la coopération française était très, très importante dans le moment de la création. Et pendant beaucoup d'années, je crois qu'il a été fondé en 1974. Et la présence de France était très importante et la publication des livres là. Mais quand j'étais à l'université, j'ai pris mes cours de français à l'Alliance française de Cusco, qui est une des plus anciennes au Pérou. Mais à l'université, on n'a pas de chance. Et même à le Centre Bartolomé de las Casas, j'ai appris le quechua un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas appris beaucoup avec mes parents parce que mes parents, si bien est vrai qu'ils parlent le quechua, ils ne le parlent très très bien comme l'espagnol, que c'est leur langue maternelle. Alors, on parlait beaucoup. Elle essayait de m'enseigner un peu. Alors, ma formation principale a été à Cusco. Et après ça, est-ce que je suis venue en Europe pour faire un diplôme en études amérindiennes à Madrid, à la Casa de América. Et après ça, j'ai obtenu une beca, une bourse pour faire mon doctorat à la Complutense, à la Université Complutense. Et après ça, j'ai commencé à travailler là avec des relations entre Américains, une organisation qui travaillait beaucoup avec la relation de coopération politique, de coopération économique, de coopération culturelle entre l'Europe et l'Amérique latine. Mais j'ai toujours voulu retourner parce que je considérais que si j'avais eu une bonne éducation à l'université, c'était grâce à que beaucoup de mes meilleurs professeurs étaient des gens qui ont décidé de retourner au Pérou. Et j'ai eu des chances d'avoir très très bons professeurs à l'université publique parce qu'ils décidaient de retourner. Alors je me dis, je dois faire le même. Et c'était mon désir. Mais le problème est que maintenant, l'université publique, quelquefois, il est managé pour des petites mafias qui ont beaucoup d'obstacles pour retourner. Alors, chaque semestre, j'ai fait beaucoup d'examens pour un semestre. Et à la cinquième, j'étais très, très, très fatiguée de ça. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas propres. Alors, j'ai dit, je ne peux pas plus. Et alors, j'avais publié mes premiers romans et j'ai voulu avoir plus de liberté pour manager mon temps. Et je me dis, je vais travailler comme anthropologue, mais plus indépendante, sans horaire, sans un horaire fixe, ni temps fixe. Et ce n'était pas le mieux pour. C'est mieux quand on a chaque mois, on reçoit. Mais je suis très contente d'être libre. Et maintenant, c'est bien, c'était une belle décision. Merci.
Tu peux dire deux mots en quechua?
Bien sûr, je vais dire en quechua, Urpillay, Sankoyay, Tukui Sankoyuan. Tukui Sankoyuan. En quechua, il y a une belle manière. Le quechua est très politique. Très poétique, être en langue très poétique. Alors qu'on dit merci beaucoup, la parole, il y a une parole qui est très facile, c'est simplement Añay, Añay, merci. Mais Urpillay, Sankoyay, Urpi, c'est un petit pigeon. Urpillay est comme dire mon petit pigeon, son collier avec mon petit pigeon te dit, t'es dans mon corps, mon petit corps. La parole c'est Urpillay, son collier. Et quand je dis Tukui son koyuan, c'est-à-dire avec tout mon corps. Oui. Alors, ça, gracias, muchas gracias.
Merci, Karine. Alors, vous pourrez la retrouver vendredi, parce qu'il y a une table ronde, on reprend de vieilles habitudes, de bonnes habitudes, sur la littérature péruvienne, avec tous les auteurs qui vont se succéder les jours suivants, à partir d'aujourd'hui, et ça sera vendredi à 15h ici. Voilà. Alors cet après-midi, puisque le programme est chargé, exceptionnellement, on a une rencontre à 15h avec Grecia Cáceres, qui est une autre écrivaine péruvienne, qui parle elle aussi un très bon français et qui vit à Paris presque tout le temps. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.